Bienvenue à toutes et à tous à ce nouvel épisode de notre podcast Inégalité réduite vers une société plus juste, consacré à un sujet aussi sensible qu'essentiel, c'est-à-dire les discriminations. Aujourd'hui, nous parlerons de leur impact sur la vie des millions de personnes à travers le monde en violation des principes fondamentaux d'égalité et de dignité humaine, garantis par la Déclaration universelle des droits de l'homme, la Constitution italienne et la Constitution française. Nous nous concentrerons plus particulièrement sur les 10e objectif de développement durable, le DD10 de l'Agenda 2030 des Nations Unies, qui vise à réduire les inégalités au sein des pays et entre les pays. Les documents mettent en lumière différentes formes de discrimination, notamment celles liées au handicap, à l'âge, à l'identité de genre, à l'orientation sexuelle et à l'origine ethnique.
Nous sommes aujourd'hui avec Viola qui nous aidera à nous faire une idée sur la situation. Bonjour Viola et merci d'être avec nous.
Bonjour.
Comme tu le sais, nous allons aborder les sujets de la discrimination sous différentes formes. Pour commencer, peux-tu nous parler de la situation du handicap en France?
Bien sûr. En France, le défenseur des droits a identifié l'handicap comme la première cause de discrimination. C'est alarmant, car une personne sur deux pourrait connaître une situation de handicap au cours de sa vie. Les Jeux paralympiques jouent un rôle fondamental en tant qu'outil de sensibilisation à cette problématique.
C'est en effet préoccupant. Pensons maintenant à l'âgisme. Que peux-tu nous dire à ce sujet?
L'âgisme, ou discrimination liée à l'âge, est également un problème significatif en France. Deux Français sur trois jouent un rôle que la société est âgiste, c'est-à-dire que deux Français sur trois en attitude ou comportement discriminatoire envers les personnes et raisons de leur âge. Cela peut se manifester par des préjugés, des stéréotypes ou des traitements injustes envers les personnes plus âgées. C'est une problématique qui touche tout le monde, car nous voulons tout. Il est donc essentiel de sensibiliser la population à ces questions.
Un autre sujet important est la discrimination de genre. Quelle est la situation actuelle à cet égard?
La discrimination de genre est une problématique complexe et profondément ancrée dans nos sociétés. Par exemple, nous avons trouvé un document qui présente un cas en Allemagne, illustrant les conflits entre les droits des personnes transgenres et ceux d'autres minorités. De plus, la situation des femmes migrantes est particulièrement inquiétante, car la répression à leur contre ne cesse pas de s'accroître.
Merci pour ces précisions. As-tu des exemples de discrimination raciale dans d'autres contextes?
Oui, il existe de nombreux exemples. Prenons le cas de Ménine Houbert-Don, un étudiant d'origine ivoirienne qui a été victime de discrimination dans sa recherche de logement en Italie. Cela montre comment le racisme peut encore se manifester dans la vie quotidienne et affecter les jeunes dans un processus général d'intégration.
Merci Viola. En tout cas, l'information est importante. Le débat est et reste ouvert. Les conséquences des actes discriminatoires sont nombreuses, tant au niveau personnel qu'au niveau social. On écoute ce fragment d'une émission de France Culture diffusée il y a déjà plus d'un an. Concernant les rapports par l'Observatoire des inégalités en France, les thèmes restent actuels. Discrimination, la France des paradoxes et les titres.
Alors, plongeons, si vous le voulez bien, Louis Morin, dans les conséquences, notamment psychiques, psychiatriques, de ces discriminations. Fatma Bouvet de la Maison Neuve est psychiatre. Depuis l'apparition de son livre, Une Arabe en France, aux éditions Odile Jacob, elle reçoit de plus en plus de personnes non blanches à son cabinet. Et depuis, elle écoute la même litanie de mal-être, de dépression, de souffrance à cause du racisme, des discours de haine et des discriminations, elle raconte.
Donc depuis que j'ai écrit ce livre, j'ai reçu des coups de fil qui m'ont semblé très inquiétants. Et alors on me demandait, on me disait « je vous appelle parce que j'ai besoin d'une psychiatre racisée ». Et donc je me suis dit « mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Pourquoi est-ce que la France en arrive là d'avoir besoin de raconter ces histoires médicales en fin de compte, parce que je suis médecin ? » et que j'ai toujours défendu l'universalisme de mon métier, C'est comme si ces personnes avaient découvert que brutalement, ce qu'elles vivaient n'allait pas de soi. C'est-à-dire que cette façon de s'effacer, d'être à l'écart, cette façon d'obéir aux injonctions de leurs parents, mais en fait qui ne sont que la réaction de la société. Leurs parents leur disaient « rase les murs, fais pas trop de bruit, tu sais, on n'est pas chez nous ». Et donc, lorsque les enfants réussissent et sont, on va dire, dans la ligne de ce que demandait la République française et qu'ils accèdent aux études supérieures et qu'ils ont des ambitions pour certaines responsabilités, brutalement se sont rendus compte qu'ils étaient écartés en fait de l'affaire, de cette affaire qui finalement dont ils se rendent compte qu'elle est très endogame. Officiellement, régulièrement, nous avons des chiffres qui démontrent la discrimination à l'embauche, la discrimination au logement, les délits de faciès, les inégalités scolaires, les rapports se succèdent et nous avons toujours les mêmes résultats et ça ne semble déranger personne. Alors qu'est-ce que ça renvoie psychologiquement aux individus? Ça renvoie l'idée que ce sont des personnes qui se sont pliées à des règles, mais qu'il n'y a pas de retour.
Et qu'en est-il de la discrimination raciale dans le contexte de géopolitique actuel, comme celui de la guerre en Ukraine? Sur ce sujet, on a le témoignage direct d'Anna. Bonjour Anna.
Bonjour. Tragiquement, la discrimination raciale apparaît également dans le contexte de la guerre en Ukraine. Le directeur général de l'Organisation internationale pour les migrations a dénoncé le traitement des réfugiés venant des pays tiers, qui subissent des discriminations supplémentaires, parfois même violentes. Un autre sujet préoccupant pour l'Ukraine est la violation des droits de l'homme. Nous vivons dans la peur constante des bombardements et la Russie continue de violer les droits internationaux humanitaires et de commettre de nombreux crimes de guerre. Beaucoup d'enfants grandissent sans père et de nombreuses familles sont séparées. J'y vis en Italie, mais ma famille est restée en Ukraine. Et mon espoir est la liberté et la justice. De nombreuses familles ont été séparées et beaucoup d'entre nous ont dû fuir nos villes et notre pays pour survivre ou pour trouver une vie meilleure et plus possible. Et c'est exactement ma situation. Depuis le début de la guerre, je vis en Italie pour avoir une vie possible, tandis que ma famille continue de vivre en Ukraine. Il est très difficile pour moi de ne pas voir mon pays, ma famille et mes amis pendant plusieurs mois. Mais je crois qu'un jour nous gagnerons, que la guerre prendra fin et que nous retrouverons une vie normale. Malheureusement, beaucoup de gens n'ont pas eu cette chance et ont perdu la vie ou ont été gravement blessés. Nous luttons chaque jour pour notre liberté, pour nos droits et pour un avenir sans violence. Nous espérons que la communauté internationale continuera de nous soutenir et que justice sera rendue pour toutes les victimes de cette guerre.
Ce témoignage est vraiment puissant et met en lumière les conséquences tragiques de la guerre. Merci beaucoup Anna pour toute clarification sur ces sujets sensibles. C'est un enjeu capital que nous devons tous prendre en considération, car dans le monde, les conséquences des guerres pèsent à plusieurs niveaux et à long terme. C'est avec moi que nous allons parler de ça.
Bonjour Emma, merci de partager ton expérience avec nous. Tu as vécu 6 ans en Afrique du Sud. Peux-tu nous parler des inégalités que tu as observées là-bas?
Bonjour, merci de m'avoir invité. J'ai vécu en Afrique du Sud depuis début 2015 jusqu'à la fin de 2020. Et dans ces pays, j'ai parfaitement compris ce que signifie vivre dans un endroit avec de la pauvreté, un manque de sécurité et de l'inégalité. L'Afrique du Sud, comme le dit l'Union douanière d'Afrique australe SACU, est la région la plus inégale au monde. En effet, 10% de la population possède 80% de richesse du pays, tandis que 60%, c'est-à-dire plus de la moitié, ne possède que 7%. Selon le coefficient de Gini, qui mesure les inégalités, l'Afrique du Sud est très inégale, avec une mesure de 0,63. Le racisme en Afrique du Sud est issu de l'apartheid, une politique de ségrégation raciale qui a duré de 1948, année de la proclamation de la Déclaration universelle des droits humains, jusqu'au début des années 1990. Même si l'apartheid a pris fin, ses effets persistent, comme les disparités entre les citoyens noirs et blancs.
Peux-tu nous donner un exemple concret de cette inégalité?
Oui, un bon exemple se trouve dans les townships, ces zones urbaines réservées aux Noirs pendant l'apartheid. Aujourd'hui, ces zones sont très peuplées, avec un taux de criminalité élevé et des conditions de vie difficiles. Par exemple, Johannesburg, la capitale, a des zones riches où vivent principalement des Blancs, avec accès à l'électricité et à des logements sûrs, tandis que la population pauvre, majoritairement noire, vit dans les townships où les services sont très mauvais parce qu'il y a beaucoup de problèmes avec l'eau et l'électricité.
Tu as également mentionné des inégalités salariales. Peux-tu expliquer cela?
Bien sûr. Le racisme se manifeste aussi dans le salaire. Comme précisé dans un article de CNN Business de 2022, les Sud-Africains blancs gagnent en moyenne 4,5 fois plus que les Sud-Africains noirs, qui représentent plus de 80% de la population. Cela crée un fossé économique énorme.
As-tu des souvenirs personnels qui illustrent cette situation?
Oui. Ma famille et moi avions une employée de maison qui faisait de longs trajets avec des moyens de transport peu sûrs pour venir travailler dans notre maison. Elle vivait dans une petite maison dans un township qui était vraiment dangereux et peu sécurisé. Un jour, elle a eu un grave accident en venant travailler et s'est blessée au bras. Elle n'a pas pu utiliser son bras pendant un mois car elle n'avait pas assez d'argent pour se faire soigner.
C'est une expérience très poignante. Quelles leçons as-tu tirées de tout temps en Afrique du Sud?
J'ai compris comment les gens vivent dans leur pays quand il y a de graves problèmes de racisme et de disparités entre les riches et les pauvres, et l'importance de la lutte contre les inégalités. Même si aujourd'hui l'apartheid n'existe plus, il reste encore un long chemin à parcourir pour atteindre l'égalité et la justice pour tous.
Merci beaucoup Emma pour ce partage. Ton témoignage est précieux et met en lumière des problématiques essentielles.
Pour conclure cet épisode, un petit résumé. Nous avons exploré différentes formes de discrimination et d'inégalité à travers le monde. Du handicap en France à la situation post-apartheid en Afrique du Sud, en passant par les réalités des réfugiés dans le contexte de la guerre en Ukraine. Chaque situation met en lumière l'importance de l'objectif de développement durable numéro 10 de l'agenda 2030, qui vise à réduire les inégalités. Pour résoudre ces problèmes et atteindre cet objectif, il est important d'éduquer en profondeur les générations futures afin d'éviter que ces discriminations ne persistent. Ces efforts sont renforcés par les principes fondamentaux inscrits dans les constitutions de plusieurs pays, tels que l'article 3 de la Constitution italienne qui garantit l'égalité de tous les citoyens sans distinction, et l'article 1 de la Constitution française qui proclame l'égalité devant la loi et rejette toute forme de discrimination. En ce sens-là, travaillent les nombreuses agences des Nations Unies, telles que l'UNHCR, ainsi que des associations comme les Bureaux de logement équitable et l'égalité des chances, ou l'US Commission des droits civils et Réseau national de l'American with a Disability Act. Mais les témoignages des personnes qui ont connu et vécu des situations comme celles que nous avons évoquées et l'intérêt de ceux qui les écoutent sont aussi bien nécessaires pour construire un monde meilleur. Ainsi, nous tenons à exprimer notre profonde gratitude à nos invités Emma et Anna pour leurs témoignages poignants et à vous, chers auditeurs, pour votre écoute attentive. Nous espérons que cet épisode vous a sensibilisé à l'importance d'agir contre les discriminations et de promouvoir une société plus juste.
Si cet épisode vous a plu, restez à l'écoute pour nos prochains épisodes où nous continuerons à explorer des thèmes essentiels pour le développement durable.
Ensemble, nous pouvons contribuer à construire un monde plus égalitaire et inclusif pour tous. À très bientôt pour un nouvel épisode.